Vic, Père Philippe, 11 avril 84, Saint-Joseph.
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Au nom de l'Esprit Saint, le Père du pauvre, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre Dame est très heureuse.
Priez-vous.
Saint-Jean.
Priez-vous.
Nous allons continuer d'entrer dans le mystère de Jacob, en comprenant bien le caractère particulier de chacun de ces patriarches. Dieu qui purifie le cœur de l'homme comme père. Dieu qui purifie le cœur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Étions, je crois, au chapitre 30. Rachel vit qu'elle n'avait pas donné d'enfant à Jacob. Rachel devint jalouse de sa sœur. Et elle dit à Jacob, « Donne-moi des fils ou je meurs. » Alors vous voyez que la jalousie, ça se propage. Hein, et que la jalousie première, celle de Caïn à l'égard d'Abel, est une jalousie religieuse. Puis nous avons vu la jalousie de Sarah, qui est une jalousie de mère, pour l'unité de l'héritage, que son fils ait tout et qu'il n'y ait pas de partage. Ici, vous retrouvez la jalousie de Rachel, encore à l'égard de la fécondité. Il faudrait étudier, parce que je crois que c'est quand même très important, dans l'Écriture, le thème de la jalousie. Ayez une fiche sur la jalousie. Et essayez de comprendre comment l'Écriture nous met très fort en face de ce péché, de cette faute, de cette tentation de la jalousie. On se corrige très difficilement des jalousies parce qu'on accepte très difficilement d'être jaloux. On aime bien d'avoir un cœur noble, grand, magnanime. Qu'à la rigueur, on accepte encore d'être orgueilleux. C'est curieux, on accepte plus facilement d'être orgueilleux que d'être jaloux. Parce que la jalousie montre que notre cœur n'est pas assez grand. Quelqu'un qui serait parfaitement magnanime ne serait pas jaloux. C'est une étroitesse du cœur. Alors on louche sur le voisin ou sur la voisine. Dans le domaine où on est particulièrement vulnérable. C'est pour ça que les jalousies sont différentes pour chacun. Il y a des jalousies d'intellectuels, on le sait bien. Il y a des jalousies de juristes, il y a des jalousies de psychanalystes. L'aide jalouse l'aide, disaient les Grecs. Et aujourd'hui, le psychanalyste jalouse le psychanalyste. Ça fait partie de ces jalousies souterraines et très curieuses. Et c'est curieux. On a des vulnérabilités particulières de jalousie. C'est le domaine où l'on voudrait tout avoir. Et on a beaucoup de peine de voir qu'un autre passe avant nous. La jalousie est liée à l'orgueil, c'est bien évident. Mais c'est un orgueil caché et un orgueil qui a une tonalité particulière parce que dans la jalousie, il y a l'affectivité qui est beaucoup plus grande. La jalousie s'oppose directement à la charité. Ça brise la charité. L'orgueil, c'est l'intelligence qui s'exalte et qui n'accepte pas que l'amour passe devant. Alors, voyons bien ici cette jalousie particulière de Rachel. Elle devint jalouse de sa sœur, qui est féconde, qui est beaucoup moins belle. Rachel, elle a toute la beauté pour elle, une beauté stérile. C'est très ennuyeux quand on doit choisir entre la stérilité et la beauté. Quand on doit choisir la différence entre le point de vue de la beauté et puis la fécondité. Rachel devint jalouse de sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des fils ou je meurs. » Le pauvre Jacob, il n'en peut rien. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'a refusé le fruit de tes entrailles ?» Jacob aime beaucoup Rachel. Il ne faut pas l'oublier. Il a eu le coup de foudre pour Rachel. Il l'a aimé et il l'aime. Mais ici, il se met en colère. Il ne peut pas supporter ce reproche de Rachel. Là aussi, une fiche sur les colères, hein, très important. Et de voir les gens. Parce que c'est, l'Écriture est un livre qui nous enseigne d'une manière étonnante sur le cœur de l'homme, hein, mieux que tous les livres de psychologie, beaucoup mieux, et de façon beaucoup plus profonde. Si on connaissait mieux l'Écriture, on aurait beaucoup moins besoin de psychologie. Parce que ça nous est montré de façon étonnante les colères et la manière dont la colère naît. Vous voyez ici, la colère de Jacob à l'égard de Rachel. À l'égard, on se met toujours en colère à l'égard de quelqu'un qu'on aime. Hein, faut pas l'oublier. On se met en colère. Quand on n'aime pas quelqu'un, on est complètement indifférent. La personne peut vous marcher sur les pieds, ça n'a aucune espèce d'importance. Tandis que quand on aime quelqu'un, on est vulnérable. Et là, on se met en colère quand la personne réclame de nous quelque chose que nous ne pouvons pas lui donner. Ou quand la personne nous fait un reproche qui est injuste. C'est un reproche injuste. Donne-moi des fils ou je meurs. Jacob ne veut pas que Rachel meure. Et Jacob ne peut pas donner de fils à Rachel. Donc sa réclamation est injuste. Son reproche est injuste. D'où la colère. On se met toujours en colère en face d'une injustice. C'est à l'égard de notre amour de la justice qui est brisé d'une manière ou d'une autre qu'on se met en colère. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et dit « Suis-je à la place de Dieu qui t'a refusé le fruit de tes entrailles ?» Vous voyez, dans la colère, on dit des vérités qu'on ne dirait pas autrement. C'est homme de vérité, la colère. C'est dans la colère que vous dites des vérités que vous ne direz pas autrement. C'est très curieux, ça. Et que vous portez d'habitude. On ne dit pas ça. La pauvre Rachel souffre déjà assez. Et là, Jacob souligne ce qu'il ne ferait pas s'il n'était pas en colère. Mais en colère, il le dit, qui t'a refusé le fruit des entrailles. Elle dit, voici ma servante, Bila. « Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'ai moi aussi des enfants. » Très curieux, hein, les mœurs du temps. Ça, c'est les scènes de famille, et la famille est beaucoup plus complexe, puisqu'il y a la servante. Et ici, il y a non seulement la servante, mais il y a la sœur. Et la jalousie porte sur la sœur, c'est pas étonnant. On n'est plus jaloux vis-à-vis de ceux qui sont plus proches. C'est intéressant par rapport à la jalousie de Sarah, ça. Parce qu'elle donne un conseil. Sarah avait donné le même conseil, mais pas du tout de la même façon. Elle donne un conseil ici, à Jacob. Elle aimerait mieux que la servante ait des fils et des enfants de Jacob que sa sœur. Parce que sa servante, c'est encore elle. Et elle le dit, hein. Voici ma servante, Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle, j'ai moi aussi des enfants. Les fils de la servante sont quand même ses enfants. Mais la servante est le prolongement. Alors, on voit bien le problème de Rachel parallèlement à Sarah. Elle lui donna pour femme Bila, son esclave, et Jacob alla vers elle. Bila conçut et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice. Il a aussi entendu ma voix et m'a donné un fils. » Elle est heureuse. Le fils de la servante, c'est quand même son fils. Voilà pourquoi elle l'appela du nom de Dan, de Dan. Alors, c'est très curieux. C'est elle qui donne le nom pour bien montrer que c'est son fils. Bila, l'esclave de Rachel, conçut encore et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai livré contre ma sœur des combats de Dieu et je l'ai emporté. » C'est ça la jalousie, il faut l'emporter. Et c'est contre la sœur. Et elle l'appela du nom de Naphtali. Vous voyez, c'est une scène de ménage à l'intérieur de ce que c'est que la famille. La famille, c'est le réservoir de l'amour. C'est dans la famille que Dieu reprend le cœur de l'homme. Et le démon le sait, et c'est dans la famille que les jalousies sont les plus farouches, tout le temps. Les jalousies fraternelles, les jalousies maternelles sont les jalousies les plus farouches. C'est toujours dans les réseaux où l'amour est le plus intense que le démon essaie de susciter les plus grandes jalousies. C'est un fait, ça. Si on est un tout petit peu limpide avec nous-mêmes, on est bien obligé de reconnaître que c'est à l'intérieur des communautés très unies où l'esprit de famille est très intense, que le terrain est particulièrement favorable à l'éclosion de ce microbe particulier qui est la jalousie. À l'éclosion, si vous voulez, de ce que représentent ces jalousies. Et Dieu veut nous corriger de nos jalousies. Et quand Dieu veut nous corriger de nos jalousies, c'est pour que notre cœur devienne magnanime. La seule réponse à la jalousie, c'est la grandeur d'âme. Donc se mettre au-delà. Et on est magnanime, vous le savez, que grâce à la contemplation. Donc, la seule manière de se guérir des jalousies, c'est d'être plus contemplatif. C'est donc de vivre ce que Jean-Baptiste, le meilleur maître des novices, dit à ses disciples de regarder la jalousie de l'époux. Si nous regardons la jalousie de l'époux sur nous, c'est-à-dire la jalousie du cœur de Jésus sur nous, nous sommes capables de dépasser toutes les jalousies. Mais on ne peut regarder la jalousie du cœur de Jésus sur nous que par la contemplation. C'est la contemplation qui nous lie à Jésus comme à un époux. Celui qui nous aime d'un amour jaloux, c'est l'amour de l'époux. Vous voyez, comme c'est très très beau de voir ça, de voir comment, de fait, Jean-Baptiste, qui est au terme de toute l'Ancienne Alliance, et dans l'Ancienne Alliance, vous voyez bien, il y a des choses magnifiques chez les patriarches, mais il y a des choses moins belles. Les jalousies des femmes. Ce qui ne veut pas dire que les hommes ne sont pas jaloux. Mais c'est peut-être plus manifeste chez les femmes, du moins selon la Genèse. Mais la première jalousie, c'est quand même un homme. C'est Caïn. Et on va voir la jalousie d'Ésaü par rapport à Jacob, du reste. Quand Léa vit qu'elle avait cessé d'enfanter, elle prit Zilpa, son esclave. Là, c'est le petit jeu des esclaves par rapport aux épouses légitimes. Vous voyez bien. Il faut essayer de comprendre tout cela dans le langage du Saint-Esprit. Point de vue moral, c'est une petite cuisine assez particulière. Si vous essayez de comprendre ça d'un point de vue plus profond, c'est quand même très intéressant. Parce que c'est Dieu qui nous fait entrer dans la purification du cœur de l'homme et de la femme, dans la lutte. Et cette purification passe par ses jalousies. Elle prit Zilpa, son esclave, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, l'esclave de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, par ma bonne fortune. Et elle l'appela du nom de Gad. Alors, il faut regarder l'étymologie de tous ces noms, qui tous ont quelque chose de particulier. Enfin, il y a des jeux de mots. Le jeu de mots sur le nom de Nephtali, les combats de Dieu, c'est-à-dire de très grandes luttes. Alors, on voit très bien, c'est les luttes. C'est une lutte, c'est une rivalité. Laquelle va l'emporter ? Des deux sœurs. C'est Léa et Rachel. Et alors les servantes qui viennent en plus, les alliances avec les servantes. Alors, Léa dit par bonne fortune. C'est beaucoup moins noble, hein, par bonne fortune, on ne fait pas une invocation à Dieu, n'est-ce pas ? Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Vous voyez, c'est intéressant de voir qu'on voit tout de suite la différence de niveau de la lutte. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Léa dit, par bonne fortune. Elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, l'esclave de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, pour mon bonheur, car les filles me proclameront heureuse. Donc ça, c'est la réputation. On est sensible à ce que les autres disent, le cœur, hein, exactement comme dans le Cantique des Cantiques. « Et les filles me proclameront heureuse. » Et elle l'appela du nom Azer. Mais le pauvre Jacob, au milieu de tout ça, il faut quand même comprendre, hein, parce que c'est ça qu'il faut essayer de saisir. Au milieu de toutes ces luttes, ces combats et ces rivalités, des rivalités à l'intérieur de la fécondité. Vous voyez comme on est bas aujourd'hui, où on méprise la fécondité. Au moins dans ces rivalités de la fécondité, on voit la bénédiction de Dieu. Parce que la fécondité est une bénédiction de Dieu, c'est ça qu'il faut voir. Et les hommes sont sensibles à ça. Et les femmes sont sensibles à ça, la bénédiction de Dieu. Tandis qu'au contraire aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est quand même important, puisque nous devons nous servir de l'Ancien Testament pour mieux comprendre la conduite de Dieu. Et dans la Genèse qui nous montre le point de départ de tout mystère de l'Église, c'est le fondement de l'Église, ce sont les patriarches. Et ce fondement est familial. Et dans cette famille, on voit un sens étonnant de la fécondité. Alors, Dieu se sert de la fécondité pour purifier le cœur des hommes. Dieu se sert de la fécondité pour purifier le cœur de la femme, des mères. Mais ça se fait dans la lutte. Donc c'est pas étonnant que c'est pas tout de suite une victoire. Hein. S'en étant allé au jour de la moisson des blés, Ruben trouva dans les champs des mangradors et les apporta à Léa, sa mère. Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Et elle lui dit, « Est-ce trop peu pour toi d'avoir pris mon mari, que tu prennes encore les mandragores de mon fils ?» La lutte continue, hein. Et sournoise, les mandragores, c'est une plante qui symboliquement doit redonner la fécondité. Hein? Alors on voit très bien la lutte qui va réaliser ici. Est-ce trop peu pour toi d'avoir pris mon mari? C'est Léa qui dit ça. Hein? Alors Rachel pourrait dire, hein, que le premier amour, c'est quand même elle. Et si Jacob a accepté Léa, c'est à cause de Rachel. Ah, c'est très beau pour voir les luttes. Hein. C'est pas très beau dans certains aspects, mais c'est intéressant pour voir l'aspect souterrain de la jalousie. Eh bien, dit Rachel, qu'elle couche avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. Comme Jacob rentrait des champs le soir, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai vraiment pris à gage pour les mandragores de mon fils. » Il coucha donc avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa. Je ne sais pas comment Dieu fait tout ça à son compte à travers tout ça, mais c'est dit dans l'Écriture. C'est l'escalier de service et puis Dieu qui regarde. Oh, très très bien, c'est chouette. Tellement à la fois humain et divin. Dieu exauça Léa. Elle conçut et enfanta à Jacob un cinquième fils. Léa dit, Dieu m'a donné mes gages pour avoir donné mon esclave à mon mari. Et elle l'appela du nom Issachar. Vous voyez, c'est ça qui est quand même très très touchant au milieu de toutes ces histoires curieuses, de voir quand même toujours cette référence avec Dieu. Même Léa, qui est moins religieuse que Rachel, ça je crois. Dieu m'a donné mes gages pour avoir donné mon esclave à mon mari. Donc elle considère que c'est un acte de générosité, et c'est vrai, on l'a vu, pour Sarah. C'est un acte de générosité d'accepter la stérilité, de laisser passer devant l'esclave, pour la communication de la vie. Il ne faut pas oublier que de ce temps, la communication de la vie a un primat extraordinaire. Du reste, l'ancienne alliance est très très forçante. La fécondité, c'est une bénédiction de Dieu. C'est pour ça que la virginité va prendre, dans la perspective, voyez, de l'ancienne alliance, quelque chose de très particulier comme éclat. Nous avons peut-être un peu perdu ce sens-là, et c'est ça qui nous fait peut-être ne pas voir avec suffisamment de netteté la grandeur d'une consécration à Dieu. Dans la grandeur de la consécration à Dieu, dans la virginité, dans nos vœux, c'est justement de considérer que l'amour de Dieu est tellement grand qu'il dépasse tout le mystère de la fécondité. Le mystère de la fécondité, c'est un effet. On va à la source. Et c'est plus grand d'aller à la source que l'effet. Si grand soit cet effet. Je crois que, voyez, si l'Esprit Saint nous a révélé toutes ces petites scènes de ménage, hein, c'est quand même, il y a un but, il y a une finalité. Pourquoi ? C'est pas pour nous rappeler les mœurs du temps. Non, on n'a qu'à regarder certains historiens et puis on saura ça. C'est bon pour ça. Saint-Esprit ne se met pas à l'œuvre pour être uniquement historien. Le Saint-Esprit veut éduquer notre cœur. Et à travers toute la révélation, il éduque notre cœur. Au-delà de l'histoire. Il se sert des faits historiques. Mais le Saint-Esprit n'est jamais un historien. Jamais. C'est très important de se rappeler ça. Parce qu'aujourd'hui, on voudrait faire de l'Esprit Saint un historien. On considère que ça, c'est uniquement de l'histoire. Mais pas du tout. C'est une éducation du cœur de l'homme. Et c'est une éducation du cœur de l'homme en se servant de toutes les mœurs du temps. En se servant de ce que représente la famille pour éduquer le cœur de l'homme. Et c'est ça qui, je crois, important à saisir pour nous. C'est de comprendre qu'à travers tout cela, l'Esprit Saint veut éduquer notre cœur. Toute l'ancienne alliance, pour nous, prend toute sa signification en Marie, quand il s'agit de la femme, en Jésus, quand il s'agit de l'homme, et dans l'Église. Alors, nous comprenons que tout cela, c'est de nous faire comprendre le prix de la fécondité, la grandeur de la fécondité. Je crois que nous devons le reprendre dans notre monde d'aujourd'hui, qui n'a plus aucun sens de ce que c'est que la fécondité. Le démon est arrivé à faire que l'homme ne comprenne plus. Et c'est pour ça que ces textes-là sont importants et reprennent pour nous une très grande valeur. Parce que ces textes nous font comprendre la grandeur de la fécondité. Oui, j'allais dire que nous comprenons que la morale est ordonnée à l'amour et à la fécondité. Que c'est la fécondité qui donne le sens à la morale. C'est l'amour qui donne le sens à la morale, si nous voulons comprendre, pas l'inverse. La moralisation dans laquelle on est tombé au XVIIe siècle, on est tombé dans une moralisation saisie, XVIIe siècle. L'aspect stoïcien qui existe toujours un tout petit peu. Alors c'est le volontarisme qui passe au-dessus de tout. C'est contraire à l'Évangile. Vous voyez un stoïcien qui lit ça, hein, je ne sais pas comment il comprend. C'est pas très stoïcien tout ça. Non. C'est un langage particulier du Saint-Esprit, très curieux, très primitif, à travers des mœurs du temps, mais c'est magnifique comme langage. C'est étonnant pour nous faire comprendre la grandeur de la fécondité et comment la fécondité, c'est vraiment une alliance directe avec Dieu. C'est Dieu qui est le maître de la fécondité. Comme il est le maître de l'amour. Il est le maître de la fécondité parce qu'il est le maître de la vie. Alors, si on le lit de cette manière-là, c'est très grand. Parce qu'on voit ces rivalités humaines. Ces rivalités humaines par rapport justement à ce point de vue de Dieu. Et on nous fait comprendre comment, au fond, toute fécondité est religieuse. Léa dit, Dieu m'a donné mes gages pour avoir donné mon esclave à mon mari. Et elle l'appela du nom Issachar. Léa conçut encore et enfanta un sixième fils à Jacob. Il faut bien les énumérer, ils sont nombreux, hein, les douze, hein, il faut bien y arriver. Hein. Alors, c'est très très beau. Il y a un parallélisme qu'il faudra voir après, n'est-ce pas, mais ça on le verra, c'est le grand cantique, hein, sur les douze. Et c'est en parallèle, l'aspect génétique et l'ordre de valeur. Deux regards sur les douze tribus. Il ne faut pas l'oublier, c'est les douze tribus. La naissance des douze tribus, à travers cette naissance à partir de Jacob. Jacob est à la source des douze tribus d'Israël. C'est quand même important, les douze tribus d'Israël. Alors on a l'ordre génétique. Et on voit que cet ordre génétique, il est fameux. se fait dans la lutte. Léa conçut encore un fils, un sixième à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui enfantai six fils. Elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dinah. Toutes les petites histoires avec Dinah, hein, c'est pas drôle. Dieu se souvint de Rachel. Oui, Dieu se souvint de Rachel. Il l'avait oublié quand il avait laissé Léa. N'est-ce pas ? Passer devant. Alors Dieu se souvint de Rachel. Dieu l'exauça et ouvrit son sein. Elle conçut et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et l'appela du nom de Joseph, en disant que Yahvé m'ajoute un autre fils. Et l'appela du nom de Joseph, en disant que Yahvé m'ajoute un autre fils. Alors, voyez dans la Bible de Austin, n'est-ce pas, le document éloïste explique le nom de Joseph. Ça nous intéresse, le nom de Joseph. Ici, à Saint-Jodard, Joseph part à enlever, à Saf, à enlever l'opprobre qui frappait l'épouse stérile. Le yaviste part ajoute Joseph. Donc, il y a deux étymologies. Ça arrive très souvent. L'étymologie qui vient du document yaviste et le document éloïste. Alors, c'est toujours, il a enlevé l'opprobre, il a ajouté. Joseph a enlevé l'opprobre. C'est beau, du reste, de voir ça. Première fois que Joseph apparaît. Hein. C'est intéressant de voir Joseph qui apparaît ici, qui apparaît à partir de Rachel, l'aimer, et Dieu a enlevé l'opprobre. Lors donc que Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir que j'aille chez moi dans mon pays. C'est curieux que c'est à la naissance de Joseph que Jacob prend cette décision. Une décision importante. Quitter le pays de Laban, le beau-père, un beau-père terrible, un beau-père qui a un sens très grand de l'efficacité et de l'économie. Alors c'est quand Joseph est né, c'est très curieux ça, et c'est intéressant de voir, parce que la naissance de Joseph apporte quelque chose de très particulier. Lors donc que Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi sortir, que j'aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et que je m'en aille. Car tu sais le service que j'ai fait chez toi. » Laban lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, j'ai su par divination que Yahvé m'a béni à cause de toi. » Puis il dit, « Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce que ton bétail est devenu avec moi. » La seule chose qui intéresse Laban, il le sait bien. Le peu que tu avais avant moi s'est accru jusqu'à déborder. Yahvé t'a béni sur mes pas. Et maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Que dois-je te donner? Dit Laban. Jacob dit, tu ne me donneras rien. tu fais pour moi la chose que voici. Je recommencerai à paître ton troupeau. Je passerai aujourd'hui parmi tout ton petit bétail et je mettrai à part tout agneau moucheté et tacheté, tout agneau noir parmi les moutons et ce qui est tacheté et moucheté parmi les chèvres, ce sera mon salaire. Alors on va montrer l'intelligence de Jacob par rapport à Laban. Ça, c'est l'astuce, l'habileté. Vous voyez, l'astuce et l'habileté n'est pas que grecque, elle est sémite. Hein. On la voit bien ici, c'est très intéressant à voir ça. Oui, parce qu'on oppose tellement, n'est-ce pas, les Grecs et les sémites. Eh bien, on retrouve des choses communes. C'est pas étonnant, c'est le cœur de l'homme. Alors, c'est intéressant à noter ces choses-là. Il est évident qu'ici, on est vraiment avec les patriarches, on est dans l'alliance avec Dieu. Mais aussi le rapport avec les hommes. On l'a vu avec Abraham. On le retrouve ici avec Jacob. Jacob et Laban. C'est pas commode de sortir des griffes de Laban. Un beau-père si puissant. Et Joseph le sait très bien. Et Jacob le sait très bien. Et Jacob sait qu'il faut beaucoup d'astuces. Vous voyez comment il parle. Je passerai aujourd'hui parmi tout ton petit bétail et je mettrai à part tout agneau moucheté ou tacheté, tout agneau noir parmi les moutons et ce qui est tacheté ou moucheté parmi les chèvres, ce sera mon salaire. Et mon honnêteté témoignera pour moi dans la suite, quand tu viendras pour te rendre compte de mon salaire. Tout ce qui ne sera pas moucheté ou tacheté parmi les chèvres, ou noir parmi les moutons, sera chez moi un vol. Eh bien, dit Laban, qu'il en soit selon ta parole. Oui, ça c'est la parole de Marie, et c'est la parole de Laban par rapport à Jacob. Hein, qu'il en soit selon ta parole. Un bon contrat, merveilleux. On se soumet à l'autre. Tu dis une parole raisonnable, je m'y soumets. Ce jour-là, il mit à part les boucs rayés ou tachetés, toutes les chèvres mouchetées ou tachetées, tout ce qui avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les moutons. Il les confia à ses fils, puis il mit 3 jours de marche entre lui et Jacob. Et Jacob faisait paître le reste du troupeau de Laban. Jacob se procura des baquettes fraîches de peuplier, d'amandier et de platane. Une petite histoire très intéressante pour la fécondité des animaux. On a d'abord montré hein, le mystère de la fécondité à l'intérieur de la maison. Maintenant, on va montrer le mystère de la fécondité à l'extérieur, dans le bétail. C'est très curieux, ces choses-là. Mais comme c'est important, hein, la fécondité de la maison et la fécondité du bétail. Ça a une signification pour nous quand même tout ça. Ne disons pas que l'homme peut faire n'importe quoi avec le mystère de la fécondité. Je crois pas. Et je crois qu'il y a là quelque chose que nous devons comprendre. Donc Jacob se procura des baguettes fraîches de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les baguettes. Puis il plaça les baguettes qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, où les bêtes venaient boire, devant les bêtes qui entraînaient en chaleur quand elles venaient boire. Comme les bêtes entraînées en chaleur devant les baguettes, elles mettaient bas des petits rayés mouchetés ou tachetés. Admirable, ça. Extraordinaire. J'allais dire, faites l'expérience, vous verrez. Extraordinaire comme histoire. Quant aux moutons, Jacob les mit à part. Vous voyez, c'est pour nous faire comprendre l'astuce de Jacob. Hein. Comment il va en face de son beau-père, être plus astucieux que lui, et donc nourrir sa maison. Il a quand même beaucoup d'enfants, et puis des femmes. Jacob les mit à part. Il tourna la face des bêtes vers ce qui était rayé, vers tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se vit ainsi des troupeaux à lui seul, qu'il ne mit pas avec les troupeaux de Laban. De plus, chaque fois qu'entraînaient en chaleur les bêtes les plus robustes, Jacob mettait les baguettes sous les yeux des bêtes dans les auges pour qu'elles entrent en chaleur devant les baguettes. Mais quand les bêtes étaient chétives, il n'en mettait pas. Si bien que les chétives étaient pour Laban et les robustes pour Jacob. Ainsi l'homme s'accrut extrêmement jusqu'à déborder. Il eut du petit bétail en quantité, des esclaves, hommes et femmes, des chameaux et des ânes. Ah, ça, c'est la grande béatitude. Hein. C'est la grande béatitude, c'est tout le mystère de la fécondité, la bénédiction de Dieu. Une petite histoire qui doit nous enseigner, qui doit nous essayer de comprendre ce qu'est la bénédiction de Dieu sur Jacob. Alors, voyez, cette chose que nous voyons dans l'Ancienne Alliance, c'est pas uniquement l'homme, c'est le foyer et tout le cheptel. Et la bénédiction de Dieu s'étend sur tout le cheptel. Je crois que nous devons considérer là qu'il y a comme un lien de la bénédiction de Dieu à l'égard de la fécondité même des animaux. Très difficile à comprendre. Hein. La petite histoire est très belle, est très gentille, elle est merveilleuse. Hein. L'astuce de Jacob à l'égard de Laban, c'est extraordinaire. On voit Laban qui va être complètement roulé par Jacob. Évidemment, nous avons toute la sympathie pour Jacob, tous. Alors on est très content que Laban soit un peu roulé, hein, parce que quand même, un beau-père de la taille de Laban, bon, c'est bien que Dieu soit avec Jacob. Dieu est avec Jacob. Jacob fut informé des propos des fils de Laban. Jacob, disait-il, a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est de ce qui appartenait à notre père qu'il s'est fait toute cette opulence. Évidemment, la source, c'est le troupeau qui appartient à Laban. Mais entre deux, vous voyez, ars cooperativa natura. L'art qui vient coopérer avec la nature. Hein, vous la voyez bien, là. L'astuce de l'homme qui intervient, et qui intervient jusque dans la fécondité, pour faire que les eaux, à la place d'aller vers Laban, vont vers Jacob. Alors, les fils de Laban ne sont pas très contents, sont les héritiers. Jacob, disait-il, a pris tout ce qui était à notre père, et c'est de ce qui appartenait à notre père qu'il s'est fait toute cette opulence. Jacob vit à la mine de Laban qu'il n'était plus avec lui comme auparavant. Yahvé dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, dans ta parenté, et je serai avec toi. Vous voyez, la jalousie qui commence. Alors Laban prend une tête effrayante. La tête de celui qui est roulé. Et comme le cœur de Laban est dans son troupeau, et pour son troupeau, de voir que le troupeau, à la place d'augmenter, va vers l'autre, on voit très très bien cette jalousie. Et Yahvé dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, dans ta parenté, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel, et Léa au champ, près de son troupeau. Il leur dit, « Je vois à la mine de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Votre père s'est joué de moi, changeant par 10 fois mon salaire. » Ça, c'est très intéressant. C'est la justification. J'ai le droit de le rouler. Parce que 10 fois, il a changé mon salaire. Donc, il n'a pas tenu parole. Donc, il a commis une injustice. Parce qu'il a commis une injustice, j'ai le droit de me faire à moi-même justice. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Vous voyez, là, les deux, Rachel et Léa, de temps en temps, sont ensemble. La jalousie, c'est par rapport à la fécondité. Mais quand il s'agit de l'héritage, il faut quand même que l'héritage soit suffisamment fort pour que chacun en ait une part. Alors là, elles sont alliées. Et puis, il les prend à témoin. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Votre père s'est joué de moi, changeant par 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les bêtes mouchetées seront ton salaire. Toutes les bêtes faisaient des petits mouchetés. Quand il disait, les bêtes rayées seront ton salaire. Toutes les bêtes faisaient des petits rayés. Dieu a enlevé son bétail à votre père et me l'a donné. Or, au temps où les bêtes entrent en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les bêtes étaient rayés, mouchetés ou marquetés. L'ange de Dieu a dit en songe, Jacob, je dis, me voici. Il dit, lève les yeux et vois. Tous les boucs qui couvrent les bêtes sont rayés, mouchetés ou marquetés. C'est extraordinaire la sollicitude de Dieu. Cette révélation de Dieu pour que Jacob trouve l'astuce. Donc, nous voyons bien, comprenez le contrat que Jacob avait fait à son beau-père lui vient de Dieu. Jacob a payé de sa personne longuement. Et il était sous l'emprise de son beau-père. Et Dieu vient au secours de Jacob en lui faisant comprendre à l'intérieur même de son travail. C'est ça qu'on doit comprendre. À l'intérieur même de son travail, à l'intérieur même de son service, Dieu lui donne l'intelligence pour qu'il soit plus intelligent que son beau-père. Ça, c'est très beau. C'est un lieu très important au point de vue de la révélation du travail. Vous voyez ici, je vais essayer d'avoir une théologie du travail. On n'a pas beaucoup exploité ça, je ne l'ai jamais vu exploiter. Parce qu'on dit, oh, c'est trop beau, c'est impossible. C'est quand même très beau, ça. C'est extraordinaire de voir ça. La sagesse de Dieu dans l'ordre de la fécondité des animaux. On n'a pas beaucoup regardé ça. La sagesse de Dieu dans, au point de vue de la fécondité des animaux, c'est dit. Ce n'est pas dit dans le Nouveau Testament. Mais c'est dit dans l'Ancien. Et dans l'Ancien, c'est dit au moment de l'alliance avec les pères, avec les patriarches. Parce que les patriarches sont fondateurs d'une maison. Une maison ne peut exister que s'il y a un droit de propriété. Le droit de propriété, il se rattache toujours à la famille. C'est là où on voit le droit de propriété. Ce serait intéressant à reprendre pour nous, ça. En face de la socialisation, de voir que le droit de propriété n'est pas rattaché premièrement à la personne et à la famille. Il est rattaché à la famille. Et on voit ici, c'est Dieu qui vient au secours de Jacob. Ça, c'est très net. Vous n'avez pas le droit de dire, oh, tout ça, c'est du mirage. Non, nous n'avons pas le droit. Nous devons essayer de chercher l'intelligence de cette manière dont Dieu vient au secours de Jacob. L'ange de Dieu dit en songe, Jacob, donc il le révèle, je dis, me voici. Il dit, lève les yeux et vois, tous les boucs qui couvrent les bêtes sont rayés, mouchetés ou marquetés, car j'ai vu tout ce que Laban te fait. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint une stèle. Bethel, c'est le lieu de Jacob. Il ne faut pas l'oublier, c'est le lieu du songe. Quand Jacob est parti, c'est un lieu de l'alliance. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint une stèle, où tu m'as fait un vœu. Premier vœu. Maintenant, debout, sors de ce pays et retourne dans ton pays natal. Rachel et Léa prirent la parole et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne nous tient-il pas pour des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a bel et bien mangé notre argent? Oui, toute la richesse que Dieu a enlevée à notre père est à nous et à nos fils. Fais donc maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Il faut le témoignage des femmes pour que la paix puisse exister et pour qu'il puisse s'évader et partir en dehors du Laban. Alors, il a dit sa conduite, il a légitimé sa conduite. Il a montré que sa conduite ne venait pas de lui, qu'elle avait une origine céleste, divine, que Dieu l'avait éduqué de cette manière. Mais Jacob fait partie des patriarches, c'est la fête des travailleurs, des éleveurs. Tous les éleveurs devraient être sous le patronage de Jacob. Alors à ce moment-là, on comprendrait. C'est très étonnant, cette chose-là. Il faut chercher un peu la théologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Jacob se leva, fit monter ses fils et ses femmes sur les chameaux et emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il avait acquis. Le troupeau qu'il possédait, qu'il avait acquis en Padam Aram, pour aller chez Isaac, son père, en pays de Canaan. Donc, on voit, voyez, comprenez bien, l'exode de Jacob. Il y a divers exodes dans l'Écriture. Il y a un exode de Jacob. Et l'exode de Jacob, c'est très particulier. Il est parti à cause de la colère de son frère, Ésaü, à cause de la jalousie de son frère. Dieu lui a dit de partir. Il a compris, il est parti. Il a rencontré Rachel, il a dû épouser Léa. Puis après, Rachel lui a été redonnée. Il fallait que les deux, toutes les petites histoires de ménage et le travail. Jacob a travaillé dur. Et Dieu est venu récompenser son travail. Et Dieu lui a fait comprendre que ce travail, c'était pour lui, pour sa maison, et non pas pour le beau-père tyran. C'est Dieu qui a fait le partage entre la justice et l'injustice. C'est tout ça qui nous est montré. C'est Dieu qui intervient là, et qui montre à Jacob qu'il doit se libérer de cette emprise de son beau-père. Jacob, il est doux par nature. C'est pas du tout quelqu'un qui est révolté, Jacob. C'est pour ça que sa mère l'aimait tant. C'est un doux par nature. Il n'est pas violent. Alors, les doux risquent toujours d'être un tout petit peu sous l'emprise du tyran. Et quelquefois, les beaux-pères peuvent être tyrans. Ça arrive. On a travaillé pour eux. Et le beau-père aurait dû faire un partage. Et voyez, le témoignage de Rachel et Léonal sont d'accord. Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ça, c'est quelque chose. Elles sont toutes relatives à Jacob. Elles ont compris. Ne nous tient-il pas pour des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a bel et bien mangé notre argent? Donc elles comprennent que leur père n'a pas agi en père. Mais à l'égard de l'héritage, normalement un père donne à ses enfants la part d'héritage qui leur revient. Et quand le père n'est plus père, alors il oublie. Et il mange l'héritage. Il a bel et bien mangé notre argent. Oui, toute la richesse que Dieu a enlevée à notre père est à moi, à nous et à nos fils. Fais donc maintenant tout ce que Dieu t'a dit. La confirmation, hein, le rôle des femmes. Nous avions déjà vu avec Rebecca, elle a dit la confirmation, la mène, la femme qui confirme. Il fallait ça. Jacob n'est pas parti sans le consentement des mères. Parce que derrière les mères, il y a les enfants, il y a les fils. Il faut ce consentement. Et le consentement, il a exposé la manière dont il avait agi. Jacob se leva et fit monter, là, on voit le départ, hein, comme Laban était allé tondre son petit bétail. Rachel déroba les théraphimes de son père. Jacob abusa l'esprit de Laban, l'araméen, en ne lui annonçant pas qu'il s'enfuyait. Il s'enfuit avec tout ce qui était à lui. Il partit, passa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galaad. Le troisième jour, vous voyez toujours les fuites, hein, on voit très bien la préfiguration de certaines fuites, de certaines fugues. C'est une fugue ici, une fugue, ce qui est faite dans la sagesse de Dieu, qui est faite avec intelligence, c'est une fugue par rapport à l'autorité de Laban. Mais l'autorité de Laban n'a plus aucune autorité. Laban n'a plus aucune autorité sur Jacob, parce qu'il n'a pas d'entendre. Alors il a exercé un pouvoir tyrannique. Quand on exerce un pouvoir tyrannique, on n'a plus d'autorité. Et c'est pour ça que Jacob peut partir. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit ses frères avec lui. Et après 7 jours de marche à sa poursuite, il rejoignit à la montagne de Galaad. Mais Dieu vint vers Laban l'araméen dans un songe, la nuit. Et lui dit, garde-toi de parler avec Jacob en bien ou en mal. Laban atteignit Jacob, alors que Jacob avait planté sa tente dans la montagne, et Laban planta sa tente dans la montagne de Galaad. Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait d'abuser mon esprit et d'emmener mes filles comme une prise de guerre? Pourquoi t'es-tu enfui secrètement et m'as-tu abusé au lieu de m'avertir? Je t'aurais reconduit dans la joie et les chants. Ça, tu peux être sûr, hein? Ça, c'est évident. Ça. Je t'aurais reconduit dans la joie et les chants avec le tambourin et la lyre. On voit très bien cette grande fête qu'il aurait fait. Tu ne m'as pas laissé embrasser tendrement mes fils et mes filles. Vraiment, tu t'es conduit follement. Tu es en mon pouvoir. Il est en mon pouvoir de vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit la nuit dernière, garde-toi de parler avec Jacob en bien ou en mal. Et maintenant que tu es parti, parce que tu languissais tellement après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux ? Jacob répondit et dit à Laban, « C'est que j'ai eu peur, car je me suis dit que tu pourrais bien me prendre de force des filles. » Et on va continuer la fois prochaine. Cette scène, c'est très très beau. Il y a une dignité très grande. C'est intéressant et important pour nous de saisir cette fugue de 3 jours. Il y a quelque chose d'important au point de vue de l'Exode et la manière dont Jacob fuit la tyrannie de Laban.